C'est ce que je veux dire.
Vous pensez qu'ils peuvent nous reprocher de nous taire très vite?
Pas de nous taire, de ne pas dire la vérité. Si déjà tu veux pas dire ce que tu as à dire, tais-toi, mais raconte pas des histoires. C'est rien.
En même temps, ils en veulent et ils n'en veulent pas.
Non, non, je prends les choses en bonne part. Mon expérience avec l'âge me montre qu'il y a énormément de conscience née en dehors d'Israël, du peuple juif, qui, comme l'ont annoncé les prophètes, commence à nous interpeller, à nous dire, eh bien, dites-nous. Alors, ce qu'ils veulent avoir, pas de la marchandise frelatée, c'est ça l'histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est un problème assez grave. Il y a aussi de la mauvaise foi chez ceux qui nous interrogent pour dire, allez, dites-nous quelque chose qu'on se l'annexe. C'est encore autre chose, ça. Okay bon.
Vous faites allusion aux amitiés
judéo-chrétiennes? Je ne sais pas qui a dit. Je ne sais pas qui a dit, c'est toi qui l'as dit. Je ne voulais pas toucher à ça. Okay bien.
Est-ce qu'il ne peut y avoir des niveaux de prise de conscience? Je veux dire, des niveaux différents. Je ne sais pas du seul, etc. Qui dérivent d'un inconscient juif transmis par une famille.
Absolument. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. On retrouve dans l'atavisme de la pensée des juifs, de la pensée juive authentique, à travers cet atavisme.
Tu parles de Freud, Kafka...
Je parle surtout de Bergson.
Chacun,
mais enfin, il y a les grands. Je parle surtout de Bergson, que j'ai beaucoup étudié de ce point de vue-là. J'en ai souvent parlé, il y a des années, où nous avons eu un symposium, avec le père Dupuis, il me semble. Mm-hmm. Oui. Je crois que la pensée de Bergson, la pensée lucide, dévoilée, est plus chrétienne que juive. Mais il y a certaines... Dupuis était un petit peu intrigué de ce que j'avais dit là, si vous aimez bien. Mais il y a certainement dans l'atavisme hébraïque de la famille Bergson qui a donné cet enfant au monde, vous savez, c'est les cadeaux que les Juifs font au monde, c'est des grands cadeaux. Parfois ils sont empoisonnés, mais c'est des cadeaux. Eh bien, il y a certainement une intuition de choses que l'hébreu a pensé à travers les siècles et qui ressort d'une certaine manière. J'en ai longuement parlé avec un grand exégète de Bergson, qui n'est pas du tout du même niveau, mais c'était Serouya. Vous avez entendu parler de Serouya, de son vivant. Et Serouya était persuadé que Bergson était un authentique chassid kabbaliste. Alors que Bergson n'a jamais vraiment eu aucun intérêt pour ces choses-là et le judaïsme en général. D'ailleurs, il dit des énormités dans les deux sources de la morale. Et la rue, c'est venu lui, non? Ça, c'est de Kant. Allez, ça se mélange. Écoutez, où est-ce qu'il y a cette analyse des sociétés closes, des sociétés ouvertes, la morale close, la morale ouverte? Les deux sources, d'accord. Et alors, il y a une coquetterie, disons, chez les Juifs, de vouloir se réclamer de ces grands hommes, même lorsqu'ils sont sortis de chez nous, dans les deux sens. Ken. Et alors, vous connaissez cette coquetterie des Juifs, Ken. Et alors, quand c'était la mode de parler de Bergson, les Juifs étaient fiers. Bergson, c'est pas vrai du tout. Si c'est pas converti au christianisme, c'est par réaction de civilité française. C'était au temps de l'occupation, et la morale française ne fait pas une chose pareille de quitter le camp des persécutés pour le camp des persécuteurs. Mais autrement, il se serait converti au christianisme tranquillement, et pour des raisons d'ailleurs pas toujours légitimes. Hein?
Ça n'empêche pas.
C'est ce que je... Oui, mais encore une fois, là, je ne serai pas d'accord dans beaucoup de détails. Vous savez l'amitié que j'ai pour Madame Amadou Valensi. Je crois que ça fait partie un peu de cette complaisance. C'est un peu forcé. Et pourquoi? Il y a une certaine tendance à, comment dire, à la réconciliation totale. Mais enfin, il faut être très, très lucide, Ken. Voilà, oui. Je crois qu'il faut dire la vérité. Bergson est né juif. C'est un cadeau du génie hébraïque à l'humanité. Mais lorsque Bergson dit quelque chose, il faut le lire comme il l'a dit et pas pousser la complaisance trop au-delà et de faire dire par Bergson ce que le rabbi de Berditchev a dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. Et ça vient parfois d'une... je sais pas comment dire, il faut être gentil, même avec les juifs. Il n'y a pas longtemps, c'était hier, j'ai assisté à la cérémonie qu'il y a eu avant la conférence que nous avons eue, et puis quelqu'un qui avait une histoire chasside à placer. Alors, il l'a raconté au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que c'était l'Agba Omer. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais intervenir? Je vais dire, c'est le Baal Shem Tov qui a dit ça, et pas Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas grave. Mais quand ça risque de tromper l'ami, pas l'ennemi, il faut quand même faire des mises au point. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus d'intuition juive de la conception du temps chez André Neher que chez Bergson. Ça ne veut pas dire que c'est pas l'atavisme hébraïque de Bergson qui l'a mené à poser un problème qui n'était pas posé dans la philosophie générale, la signification du temps. C'est clair. Mais vous avez chez les Goïm un autre que Bergson qui a dit à peu près les mêmes choses, pas avec le même génie. C'est William James, avec le flux de la conscience. Et on ne va pas dire que William James était un hébreu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc. Bien. Je crois qu'on s'approche de l'heure. On a 4 minutes. Dans tous les cas, gardez les textes. Ceux qui ne reviendraient pas demain, laissez-les pour vos collègues de demain. On continuera le texte. Si vous avez encore une question, il y a 4 minutes. Je crois que je vais mettre en évidence là ce que le Maharal veut accuser. C'est le caractère absolument radicalement autre du contenu de la connaissance que transmet la Torah. Et bien que nous trouvons dans surtout dans la Torah chez Berlepé, énormément de contenu de sagesse du point de vue de la Torah concernant la sagesse humaine, c'est autre chose. Est-ce que c'est bien clair? À la rigueur, dans l'exemple que nous avons eu, cela vient en confirmation. Cela vient en asmarta, comme nous disons en hébreu. Mais je crois que le temps est venu peut-être de commencer à nous réhabituer à ce que l'humanité a entendu avec l'histoire des Hébreux, qu'une parole venue de l'extérieur de la conscience de l'homme comme créature a fait irruption dans le monde. Et c'est bien une parole, et non pas une foi, une parole qui vient de Dieu, et non pas une foi de l'homme qui parle de Dieu. Et c'est surtout dangereux, délicat et pas clair lorsqu'il s'agit d'hommes qui ont lu la Bible des Hébreux et qui, à la limite, finissent par faire croire que les prophètes étaient comme des philosophes, des hommes qui parlaient de Dieu à leur manière, et que au fond le peuple juif, le peuple hébreu, avait été l'auteur d'un énorme pieux mensonge, qu'il n'y a jamais eu de révélation, qu'on a mené le monde en bateau, et que. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Donc, bien. Alors nous verrons donc de nouveau demain matin.